Tout d'abord à 8h30, c'est la revue de presse internationale d'Ilan Malka. Bonjour Ilan.
Bonjour Julie.
Alors que nous relatez-vous de ce que dit la presse étrangère ce matin?
Alors la presse internationale évoque aujourd'hui notamment les nouvelles mesures de l'UE face au terrorisme. Les pays européens ont à nouveau connu cet été des actes considérés comme des attentats. Il y a eu cette voiture bélier à Londres il y a une semaine qui heureusement n'a fait que des blessés légers. Et hier en Espagne, un homme a attaqué un commissariat catalan. Il a tenté de s'en prendre à des agents avec un couteau avant d'être abattu. L'Union européenne veut donc absolument sévir sur la question des contenus terroristes sur Internet, un sujet absolument crucial dans la radicalisation. Le site américain The Next Web nous donne quelques éléments et chiffres. Tout d'abord, on lit par exemple que les djihadistes n'ont pas abandonné des plateformes comme YouTube, Twitter ou encore Facebook. Une étude révèle qu'entre mars et juin, les membres et sympathisants de Daesh ont téléchargé 1348 vidéos YouTube qui, pour certaines d'entre elles, sont restées sur la plateforme pendant plus de 2 heures. Voilà donc ce à quoi l'UE veut s'attaquer. Alors dans le quotidien espagnol El País, Alvaro Sanchez nous en dit un petit peu plus sur les mesures concrètes qui pourraient être prises par Bruxelles. L'idée, eh bien, c'est d'accélérer l'élimination des messages. Les géants de l'Internet auront désormais 1 heure pour effacer les contenus terroristes. La Commission considère que les premiers instants sont essentiels pour ralentir la diffusion d'un élément. Car de nombreux loups dits solitaires qui ont attaqué l'Europe sont entrés en contact avec d'autres radicaux justement via Internet. Il faut bien sûr qu'il y ait une sanction si la mesure n'est pas respectée. Et pour le moment, les instruments de punition des contrevenants n'ont pas encore été adoptés, nous dit El País. Le journal mentionne au passage l'exemple allemand. Berlin inflige ainsi des amendes qui peuvent aller jusqu'à 50 millions d'euros aux entreprises qui ne suppriment pas les contenus illégaux dans les 24 heures. À bon entendeur.
Bon, autre sujet sur lequel il faut sévir davantage, selon la presse, Ilan Malka, les abus sexuels dans l'Église.
Et là aussi, les journaux s'interrogent, que faire sur le sujet? Et surtout, est-ce que le Vatican a véritablement envie de faire quelque chose? Hier, le pape François a condamné avec force les atrocités commises en Pennsylvanie sur plus de 1000 enfants par des centaines de prêtres pendant des décennies. Mais que peut-il faire concrètement? Alors aux États-Unis, il y a le journal plutôt résigné et le journal qui veut croire que les choses peuvent quand même peut-être bouger. Le journal plutôt résigné, c'est le Washington Post. Souvent, peut-on lire, les victimes ne peuvent pas parler pendant des décennies des abus qu'elles ont subis quand elles étaient enfants. Il faut donc, pour le grand quotidien, étendre les délais de prescription. Mais voilà, poursuit-il, partout aux États-Unis, les hauts responsables de l'Église et les lobbyistes font régulièrement pression sur les législateurs de l'État pour qu'ils ne prolongent pas ces délais. Tant que le Vatican n'atteindra pas les diocèses et les paroisses, il y aura trop peu de réformes réelles dans l'Église catholique. C'est ce que conclut donc cet article du Washington Post. Alors il y a donc le journal aussi qui veut croire quand même un petit peu à une évolution sous ce pontificat, c'est le New York Times. Le pape François pourrait sauver l'Église, va-t-il le faire? C'est le titre. Et de proposer quelques pistes de réforme. Le catholicisme peut commencer par créer un département des ressources humaines pour s'assurer que toute personne victime puisse le signaler en toute confidentialité et en toute sécurité. Un tel système garantirait que l'information serait examinée par un conseil d'administration indépendant, composé de laïcs et versé au dossier personnel de tout ecclésiastique. C'est un premier pas simple, mais même cela aurait été impensable sous les pontificats précédents. C'est ce qu'écrit David Gibson.
Et puis enfin, en République tchèque, Ilan Malka, les journaux se souviennent du printemps de Prague.
Oui, il y a exactement 50 ans, le 21 août 1968, les troupes soviétiques envahissent la Tchécoslovaquie qui porte alors un mouvement de réforme du communisme. Et aujourd'hui, la presse tchèque, bien sûr, se remémore les événements. Certains journaux ou sites reviennent en détail sur ce qui s'est passé à l'époque. Par exemple, le site de CT24, qui est une chaîne d'information en continu de la télévision publique tchèque. On sent que les blessures sont encore vives, le sentiment d'injustice encore violemment ressenti. À l'époque, les responsables politiques à la tête de l'État, écrit la chaîne, malgré leurs intentions réformistes, étaient toujours des représentants du pouvoir communiste et leur but était simplement de modifier le régime existant. Cependant, même des réformes prudentes étaient hors de leur portée. Dans la nuit du 20 au 21 août, 100 000 soldats sont entrés sur le territoire tchécoslovaque. De son côté, le site tchèque IDNES est très inquiet de l'attitude des Russes aujourd'hui par rapport à cet événement historique. Les partisans de l'intervention sont de plus en plus nombreux, écrit-il. À la question Brejnev avait-il raison en 1968, 26% des Russes répondent oui aujourd'hui. Il y a 10 ans, c'était seulement 15%, assure cet article. Et on peut parler également tout simplement de l'ignorance ou de l'indifférence. Près de la moitié des Russes n'auraient pas connaissance de l'invasion ou n'aurait pas d'opinion dessus. C'est en tout cas ce que l'on peut lire dans cet article signé Lubosch Palata.
Merci beaucoup Ilan Malka. Bonne journée à vous.
À bientôt.
Il est 8h35 sur France Culture.